Nous voyons, si nous y prêtons attention, de quelle manière merveilleuse Dieu l'a conduit et nous a également conduit de clarté en clarté. De tels hommes de Dieu augmentent en connaissance et en enseignement biblique que le Saint-Esprit donne et présente selon le moment. Je crois que c'est aujourd'hui que j'ai lu comment des frères. Cela ne convient peut-être pas tout à fait ici, mais il y a parfois des liens. On donne des années, des mois et des temps quand il y a eu le grand réveil ici en Allemagne. Et nous avons tous entendu parler de l'Église des frères qui est née de ce réveil, l'Église appelée l'Église des frères, qui est née de ce réveil en tant qu'Église spirituelle à cette époque. Et quand deux frères sont allés à Londres pour parler à John Wesley, et curieusement, ces deux frères allemands qui avaient vécu un baptême de l'Esprit selon le modèle originel vont voir John Wesley. Et on y indique le jour, c'est en juillet 17 que John Wesley a fait l'énorme expérience avec Dieu après que ses deux frères, qui n'habitaient pas si loin d'ici, sont allés là-bas pour aider cet homme qui jusque-là était bien un prédicateur, mais n'avait pas encore fait l'expérience avec Dieu de cette manière. Et tout à coup, il a été saisi et il a fait l'expérience de Dieu. Il a expérimenté Dieu d'une manière très puissante. Et comme nous le savons, il est devenu plus tard ou a été le messager dont Dieu avait besoin de manière particulière. Dieu est en tout. Si l'on veut regarder en arrière, on peut regarder les choses qui ont été, non pas avec mépris, mais avec reconnaissance, car toutes ces choses étaient l'œuvre de Dieu. Peut-être pas dans la pleine mesure à laquelle nous sommes habitués, mais peut-être ces personnes avaient-elles la direction, la conduite de l'Esprit-Saint à un degré encore plus fort que celui que nous avons avec toute notre connaissance et notre enseignement. Des personnes conduites par l'Esprit de Dieu. Nous pensons à Schwenkfeld qui était utilisé à l'époque de Luther d'une manière bien plus puissante que Luther. Lui-même, Schwenkfeld. Celui qui baptisait alors au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui priait pour les gens afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et même l'histoire doit témoigner qu'il était bien en avance sur les réformateurs en manière de connaissance et qu'il a été gracié par Dieu d'une manière particulière. Mais il y a toujours eu, et nous savons bien, et Frère Branham l'a particulièrement souligné, que de chaque réveil sortent deux lignées, même aussi autrefois. Et curieusement, la ligne qui a attelé l'homme devant le chariot et l'a utilisé comme figure de proue n'était pas la ligne spirituelle qui existait déjà à l'époque à côté de l'Église officielle et qui a été abondamment bénie par Dieu. Je crois que c'était un homme du mouvement pentecôtiste de Mülheim qui essayait de mettre en évidence qu'à côté de ce qui était officiellement connu et reconnu, Dieu avait une petite troupe, à savoir son Église, qui suivait la conduite du Saint-Esprit et servait le Seigneur dans leur temps. Il en va de même à notre époque. Ce n'est pas la grande masse qui vit dans ce temps, et nous avons entendu Frère Branham dire qu'il s'était déjà passé quelque chose avec la Première Guerre mondiale, et il parle sur une autre bande des contractions, des douleurs qui viennent sur le globe de la Terre, des contractions, des douleurs liées à la Première Guerre mondiale, des douleurs plus intenses avec la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit, si la troisième si la troisième douleur d'enfantement arrive, alors les trois contractions, les trois douleurs arrivent, alors une nouvelle naissance devra surgir. Nous savons que lorsque les contractions, les douleurs s'abattent sur une femme enceinte, quelque chose doit sortir. Il doit y avoir une naissance et les contractions se succèdent. Mais ensuite, une nouvelle vie apparaît. Et ainsi, nous avons devant nos yeux que les choses qui viennent en tant que contractions sur la terre, douleur. Je crois qu'il y a trois douleurs dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Trois douleurs. Et même ces trois douleurs qui sont indiquées font allusion à la toute dernière période dans laquelle nous vivons. Et il est possible qu'elles s'accomplissent définitivement, après l'enlèvement bien sûr, mais une chose est sûre, les mêmes contractions, les mêmes douleurs qui s'abattent sur cette terre s'abattent aussi sur l'Église. Et chaque fois que de telles douleurs sont venues sur l'Église, quelque chose de nouveau est né. Une nouvelle vie sortie de Dieu, issue de Dieu, est apparue dans l'Église du Dieu vivant. Sans de telles contractions, sans de telles douleurs, il n'y a pas de nouvelle vie. Je ne sais pas qui c'était parmi les gens qui, peut-être même le pasteur Gessichen, je me souviens de lui que lorsqu'il était, il était déjà enfant, mais lui aussi aura eu un temps où Dieu l'aura béni. Et je crois que c'est lui qui a dit, j'ai dû comprendre qu'en tant que croyant, je devais d'abord me repentir pour me rapprocher à nouveau de Dieu. Ce sont des contractions, des douleurs qui doivent venir sur nous. Et lorsque nous chantons ainsi la gloire dans laquelle nous entrerons sans aucun doute, je pense alors que des douleurs doivent encore venir sur nous pour que nous puissions invoquer, crier à Dieu du fond de notre cœur et faire et expérimenter Dieu, faire une expérience avec Dieu sur place, à l'endroit même où nous tenons, à laquelle nous pourrons nous référer. Une expérience, quelle que soit la manière dont nous la recevrons, nous la décrivons, mais que nous sachions que quelque chose s'est produit par la grâce de notre Dieu. Les personnes sur lesquelles ces contractions, ces douleurs spirituelles se sont produites n'ont pas autant sauté et sauté. Lorsque les contractions, les douleurs surviennent, comme l'enseigne même les Saintes Écritures, la tristesse s'installe et parfois même la timidité. Mais lorsque la naissance a eu lieu, alors tout s'est transformé. Il y a alors de la joie pour la nouvelle vie qui est venue. Il en est ainsi pour nous tous. Il n'y a pas d'échappatoire, même Apocalypse 12, et cela nous rappelle l'installation du dragon à côté du chemin. Et comme il est dit là-bas, il essaie de dévorer. Mais tout d'abord, l'Église est en proie à des douleurs avant que le fils mâle ne puisse définitivement naître. Et ces douleurs, ces contractions spirituelles qui viennent sur nous, qui doivent venir, il n'y a pas de passage possible. Mais où peuvent-elles venir? Déjà sur terre, elles ne peuvent pas simplement venir et on ne peut pas... On ne peut pas se mettre au lit et dire « j'ai des contractions, maintenant j'ai des douleurs ». Il faut d'abord qu'il y ait une procréation spirituelle. Je ne dis pas cela en plaisantant, frères et sœurs. Je ne le pense pas en plaisantant. Je le pense sincèrement et honnêtement. Il faut d'abord que nous recevions la semence de la parole de Dieu. Il faut d'abord une relation d'amour, qu'une relation d'amour se soit établie entre Dieu et nous pour que la semence de Dieu soit déposée dans notre cœur, puis en temps voulu, ce malheur spirituel, cette douleur spirituelle s'abattra sur nous et une nouvelle vie naîtra. Il y a tant de choses dans les choses terrestres. Pardonnez-moi cette expression, mais parfois le Seigneur a aussi utilisé des choses terrestres et a représenté le royaume de Dieu par diverses images. Nous le savons nous-mêmes. D'un point de vue spirituel, beaucoup ont toujours peur de savoir si le moment est venu. Mais spirituellement, nous devrions craindre que ce ne soit pas encore le cas. Est-ce vrai ou non? Mais devrions Mais nous devrions arriver à ce que cette semence divine soit déposée en nous. Nous l'avons entendu de la part de Marie lorsque l'ange l'a visité. Il lui a été dit, béni sois-tu parmi les femmes, tu as reçu la grâce par le Seigneur. Et elle a dit, oui, comment cela sera-t-il possible? Je ne connais pas d'homme. Et l'ange a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Et celui qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Dans Éphésiens 5, Paul n'a-t-il pas comparé Christ et l'Église à la relation entre l'homme et la femme? Il dit, il y a là un grand mystère. Je l'interprète. Je fais ce lien en termes de Christ, entre Christ et l'Église. Il y a bien plus que cela. Nous voyons déjà depuis le début avec Adam et Ève. Ève était à l'intérieur d'Adam et elle a été retirée de son côté. L'Église épouse était à l'intérieur de Christ. Son côté a été ouvert à Golgotha et par le sang précieux et saint qui a été versé, nous avons été rachetés et libérés et nous sommes devenus esprit de son esprit et vie de sa vie. Dès le commencement, tout ce que Dieu a fait a eu une signification et un sens. Maintenant, en ce tout dernier temps que nous vivons, Dieu a encore une fois donné de la semence aux sémeurs. Vous connaissez la parole du prophète Ésaïe, là où il est écrit que sa parole ne revient pas vide. Il envoie la pluie, la neige, tout pour donner la semence au sèmeur afin qu'il la sème en temps voulu. Et c'est ainsi que la semence de la parole révélée se trouve dans les... Devons-nous l'exprimer ainsi pour une fois? Je crois que Frère Branham l'utilise à un moment donné. Nous n'avons pas l'habitude de parler en ce lieu avec de tels exemples, mais il dit littéralement que quand l'Église vient à ce point où qu'elle a, vient là et qu'elle a un sein virginal, qu'elle n'a été chargée de rien, qu'elle n'a été souillée par rien et qu'elle reçoit dans ce sein virginal la pure et sainte parole de Dieu. Et il dit, lorsque cette parole de Dieu a été déposée en elle, le sein spirituel, pouvons-nous le dire, de la mère se ferme et alors plus rien ne peut y entrer. Cette semence de la parole de Dieu est alors préservée. Plus rien ne vient s'y ajouter. Le sein maternel se ferme. Vous savez, spirituellement, je veux dire maintenant, après que la semence de la parole soit entrée, et alors les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement, peuvent aussi venir quand le moment est venu. J'aimerais avoir le courage de parler de ces choses comme Frère Branham en parle. Et il dit, quiconque est spirituellement disposé comprendra tout cela spirituellement. Mais il dit que tant que l'on pratique encore la fornication spirituelle et que l'on est réceptif à tout, à toutes ces interprétations et tout ça, il n'est pas possible de faire naître quelque chose qui soit pur et saint. Il est dit des vierges ou des 144 000 qu'elles sont pures parce qu'elles ne se sont pas souillées avec des femmes. Nous savons que dans la Bible, les femmes signifient les églises. Nous le savons tous. Nous lisons dans Apocalypse 12 que la femme est une église. Dans Apocalypse 17 que l'église universelle est une église, une femme. Et il y a suffisamment d'exemples qui nous montrent de quoi il s'agit dans notre temps. Et de ne plus rien mélanger, mais d'entrer absolument pur et saint dans la présence de Dieu et ne pas permettre de mélange avec sa parole. Et d'un point de vue spirituel, c'est de toute façon d'abord la nouvelle naissance qui se fait seulement par la parole et l'esprit, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Ensuite, il y a la suite, la nouvelle naissance, la nouvelle semence de la parole de Dieu est déposée dans cette nouvelle naissance. Et nous l'avons bien entendu lors des dernières réunions. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il veut écarter l'ancien pour faire place au nouveau. Il veut ôter le cœur de pierre pour laisser place à un cœur réceptif capable de recevoir. Une pierre ne peut rien recevoir. On peut y semer des graines jour après jour. Mais le sol qui en est capable, on le laboure, on le prépare et ensuite on peut y jeter de la semence. Il est donc spirituellement compréhensible que le Seigneur doit créer en nous un cœur qui reçoit la semence divine après avoir reçu la semence divine. Et nous savons très bien que le Seigneur parle de cela. Il dit « Le semeur a semé ». Mais ensuite sont venus les oiseaux du ciel. Puis il y eut ceci et cela, et ici et là. Mais il y en a eu qui étaient prêts et qui ont reçu la grâce de Dieu par Dieu pour porter des fruits au centuple. Il faut donc maintenant veiller à ne pas se contenter de semer et de semer et que cela vole partout, mais il faut savoir, et tout agriculteur qui est raisonnable sait très bien où il vaut la peine de semer et où cela ne vaut pas la peine. Et cela ne sert à rien de se tromper soi-même. Vous savez, quand on est jeune, je sais que nous avons essayé de passer à côté de certains travaux pour les terminer plus vite, mais on l'a vu plus tard. Quand on n'a pas labouré correctement, quand on n'a pas travaillé correctement, on a payé le prix fort. Cela ne vaut pas la peine, surtout dans le royaume de Dieu, de faire quelque chose de superficiel. D'être minutieux est toujours payant. Que Dieu fasse donc en ce moment un travail minutieux en chacun de nous. Les choses anciennes doivent être mises de côté réellement. Comme l'Écriture le dit, retirez le vieil homme, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau. Et ensuite, l'homme nouveau a besoin d'une nourriture nouvelle, vivante, pure, donnée par Dieu lui-même. Et c'est la parole, c'est la semence qui est alors déposée. Et lorsque cette semence a été déposée en nous, que Dieu veille à ce que rien d'autre ne soit ajouté à cette semence déposée par Dieu lui-même. Et ensuite, c'est là qu'il veillera sur elle, comme sur toute la nature. Lorsque la graine est semée, on sait, et tout homme qui connaît les choses peut faire le calcul. Ici, cela prend tant de temps, là, tant de temps, chaque semence a son temps et l'on sait exactement que là où l'on a semé, là vient la récolte. C'est sûr. Et il en va de même dans le domaine spirituel. Nous pouvons calculer qu'en ce temps-là, la grâce de Dieu est venue sur nous, qu'un nouveau labour a été fait et que l'ancien a été mis de côté, afin que cette nouvelle semence vivante de la parole de Dieu y soit déposée. Et alors tout se referme. Alors peut venir qui veut. Alors l'ennemi peut venir et dire n'importe quoi. Nous ne l'écoutons pas, car nous avons reconnu ce dont il s'agit par la grâce de Dieu en ce temps. Rien ne doit être mélangé. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on n'avait pas le droit de semer deux graines différentes sur le même terrain. Déjà dans la loi de Moïse, Dieu a veillé à cela. Soit c'était un champ de blé, soit c'était n'importe quoi. On ne pouvait pas mettre deux semences différentes dans le même champ. C'est dans la loi de Moïse comme ça. Même dans le costume, même nos habits doivent être faits d'une seule et même matière et non de deux, trois ou quatre matières différentes. Dieu déteste tout mélange. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand il a un champ de blé, il veut un champ de blé. Et quand il a soudain constaté qu'il y avait de l'ivraie dans le champ de blé, il a dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Voici, c'est l'ennemi qui l'a fait. Partout où une autre semence est ajoutée à la semence de Dieu, on peut tranquillement dire ça c'est l'ennemi qui l'a fait. Et les disciples disaient alors, allons-nous arracher l'ivraie? Le Seigneur dit, laissez tout pousser jusqu'à la moisson. Mais que Dieu nous fasse la grâce d'être un champ de blé qui a reçu la grâce par Dieu, béni par Dieu, que nous ayons fait une nouvelle expérience réelle avec Dieu et que tout soit devenu nouveau. Et cette nouvelle parole de Dieu Si nous devons le dire ainsi, au fond, elle est très ancienne, mais elle est nouvellement révélée et placée sur le sanctuaire, mise en lumière, que nous la recevions avec respect dans nos cœurs, sans la mélanger encore avec ceci ou cela, pensée humaine ici, pensée opinion humaine là. Quelqu'un m'a dit récemment, frère Franck, j'ai été tellement déçu. J'arrive dans une maison où les prédications de frère Branham sont envoyées en permanence et je vois encore des prédications de ceci et des prédications de ce frère, des prédications de cette personne, etc. Et cette personne m'a demandé que je dois faire et j'ai dit rien du tout, rien du tout. Celui qui n'a pas compris qu'un ensemencement saint et divin a eu lieu en ce temps, sans aucun mélange, n'est lui-même pas encore né de nouveau pour une espérance vivante. Il fait des mélanges dans sa propre vie de foi et il fait des mélanges avec des choses qui ont toujours été fausses et il y ajoute ce qui est authentique en pensant que cela va l'aider. Non. Cela ne va pas. On ne peut pas mélanger la parole authentique avec des choses fausses, avec des faux enseignements. Nous ne voulons pas nous permettre de porter un jugement à ce sujet, mais nous croyons que la parole de Dieu ne peut pas être mélangée. Et nous croyons que Dieu a envoyé son serviteur et prophète et que cette parole nous est parvenue en tant que révélation vivante du Dieu vivant en ce temps. Cela ne me pose aucun problème de reconnaître que Dieu a utilisé différentes personnes avec puissance, mais cela ne me pose pas non plus de problème d'allumer un feu. Cela ne me pose pas de problème non plus. Si j'ai compris ce que Dieu a fait en ce temps, c'est une petite chose de laisser partir en fumée tout le reste avec que bienveillance et de me concentrer uniquement sur ce que Dieu a donné en ce temps. Tout le reste n'est que distraction. Tout le reste passe à côté du but. Tout le reste n'est que mélange. Et ce corps ne peut pas se fermer pour que la croissance puisse commencer. Est-ce que vous comprenez cela? Pour que la croissance spirituelle puisse commencer. Tant que les choses vont et viennent, rien n'est encore fermé. On doit encore écouter ici, on doit encore écouter là, on doit encore écouter. Il n'y a pas encore de croissance et les contractions ne se produisent pas, les douleurs ne se produisent pas. Et nous pensons tous que nous recevons en permanence et que les contractions et les douleurs ne se produisent pas et que la percée que nous attendons n'a pas lieu. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et devant la face de Dieu et posons-nous la question de savoir si nous sommes réellement débarrassés du vieil homme et de toutes ces choses et les saintes écritures nous donnent des informations claires à ce sujet. Et si ce n'est pas le cas, nous avons besoin d'une nouvelle expérience avec Dieu. Et il vaut mieux qu'on nous le dise ici pendant qu'il est encore temps pour que nous puissions y mettre bon ordre. Que ce soit notre langue, et etc. ou bien quelque chose d'autre. Et c'est en effet depuis toujours, Dieu le sait, depuis toujours, le pire des mots dans le monde entier, il n'y a rien de pire, écrit Jacques, que la langue dans Jacques 3. Et c'est pourquoi, à la Pentecôte, la langue a été brûlée et divisée par le feu divin, afin que les gens sachent ce qui se passe. Si l'on vous coupait la langue de cette manière, les choses seraient différentes, car alors chacun perdrait l'usage de la parole. À la Pentecôte, la Bible dit et des langues leur apparurent comme séparées par le feu. Pourquoi cette division par le feu divin? Pour que l'on cesse enfin d'abuser de la langue et qu'elle soit mise au service de Dieu. Car Dieu sépare. Il fait et met de l'ordre là où il faut. Mais nous allons tirer le temps en arrière et Dieu a du mal avec nous tous à ce que nous le saisissions et comprenions à quel point le temps est avancé. Et si le frère Branham a failli dire il y a 20 ans, je ne vois plus rien qui doive encore être accompli, mais la venue du Seigneur est la seule chose que nous attendions. Combien de grâces Dieu nous a-t-il donné durant toutes ces années? Et quel est le sens et la signification de nos réunions? S'agit-il simplement d'un service divin que nous interprétons ou que nous expliquons quelque chose? Ou bien expliquons des paraboles? Non. Dieu nous a convoqués pour faire toutes choses nouvelles, pour mettre en nous cette nouvelle semence de la parole, pour y veiller afin que la croissance puisse venir et que les douleurs de l'enfantement puissent enfin s'arrêter. Et que quelque chose de nouveau puisse surgir par la grâce de notre Dieu. C'est peut-être maintenant que les écoutes ont lieu. Et il est écrit, ce que l'homme sème, il le récoltera. En ce lieu, nous n'avons pas semé des histoires, mais la sainte parole de Dieu. Et cette sainte parole de, doit s'élever en puissance et en gloire, comme autrefois avec Marie. En elle, la parole s'est faite chair. La parole elle-même est esprit, c'est ce qui est écrit. Mais elle s'est faite chair et a habité parmi nous. Maintenant, nous sommes une parole de Dieu qui s'est faite chair, en laquelle Dieu a donné ses promesses pour ce temps en nous et en nous tous. En nous tous. C'est alors que les promesses pour ce temps, là autrefois, ont été accomplies. Aujourd'hui, elles s'accomplissent en nous et par nous tous. Et il n'y a pas d'autre solution. Nous devrions être honnêtes et sincères les uns envers les autres et demander à Dieu de nous donner un cœur sans partage. Car ceux qui lui font confiance sans partage ont la promesse que Dieu les bénira. Dieu bénit tous ceux qui lui font confiance sans partage. Il nous appelle et nous dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Faites silence et sachez que je suis Dieu. Il est Dieu. Sa parole a été prononcée. Il s'est révélé à ceux qui ont cherché et trouvé refuge auprès de lui. Maintenant, le temps est venu où nous devons veiller à ce que la sainte parole de Dieu soit placée dans un sol préparé dans notre cœur, de sorte que rien d'autre ne puisse y entrer. Et puis, nous arrivons aussi au point du scellement. Combien de personnes, elles disent à la légère, et passons aujourd'hui par les églises du plein évangile, elles disent facilement, « Oh, je suis scellé. » Aujourd'hui, ils croient ceci, demain, ils croient cela, mais pas ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qui est scellé par Dieu? Et quand on regarde, les gens croient ceci, les gens croient cela, mais pas n'importe quoi. Mais il est écrit, « Scelle ta parole. » En tes disciples. C'est ce que nous disons dans le prophète Ésaïe. Il a scellé ses instructions à ses disciples vers la révélation, vers la parole de Dieu. Au moment où la parole de Dieu, révélée par l'Esprit Saint, est placée dans notre cœur, qui a été préparée pour que rien d'autre ne soit mélangé dans un sens et dans l'autre par des opinions humaines, mais puisse rester sain et pur. Alors, le même Esprit Saint qui a donné la révélation de la parole et l'a placée dans notre cœur, le même Saint-Esprit va nous marquer ensuite, alors, de son sceau, là où il n'y a pas de mélange. Et alors, il ne se passera plus rien. Alors, n'importe quel vent de doctrine peut venir, il peut se déchaîner, quelqu'un peut dire ce qu'il veut. Ici, le cœur, la parole de Dieu a été scellée. La révélation du vivant, du Dieu vivant, a trouvé sa place, comme autrefois, dans le sanctuaire. Ainsi, nous sommes maintenant le temple de Dieu et la parole divine de la révélation est déposée en nous. Il ne faut pas toujours parler de l'Église de manière générale et penser quelque part, oui, bien, tu t'assieds simplement entre les deux et tout cela est l'Église ici. Mais il faut aussi voir cela comme des membres individuels. La notion d'Église ou le mot Église est en effet composée de différents membres. Autant dire qu'il s'agit d'un seul corps, mais qu'il y a plusieurs membres. La question est de savoir si chacun des membres, si toi, avons cette part personnelle en Dieu, dans la parole de Dieu et dans l'action du Saint-Esprit. On ne peut pas simplement dire, voilà, je fais partie de l'Église. Il pourrait arriver que ce que nous appelons ici l'Église n'est pas encore tout à fait besoin d'être l'Église au sens de Dieu. L'Église au sens de Dieu, où ceux qui appartiennent à l'Église sont ceux qui sont nés de nouveau, éclairés, guidés, conduits, remplis et scellés par le même Esprit Saint. C'est un chemin que Dieu parcourt avec nous tous. Nous ne devons pas nous contenter de dire, oui, le Seigneur bénit dans notre église, le Seigneur parle avec nous, etc. Tout cela est très bien, est très beau. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour de telles expressions. Car si Dieu ne bénissait pas, nous ne serions pas tous ici, n'est-ce pas? Mais cela seul ne suffira pas si l'on ne peut même pas dire, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur s'est adressé à moi, on s'est adressé à moi, cela et cela m'a touché. Hein? Dieu a eu de bonnes intentions à mon égard. Il faut qu'il y ait un jour cette relation personnelle avec Dieu et nous entre chacun de nous, et que nous puissions comprendre que Dieu parle avec nous, veut parler avec nous, et que c'est une affaire personnelle. Il n'y a pas d'autre moyen. Je vous dis la vérité. Sinon, nous ne ferons que plonger, mais nous ne voulons pas nous immerger. Nous voulons être insérés comme membres dans le corps de Jésus-Christ et savoir qu'il en est la tête. Et pour cela, nous avons tous besoin, du premier au dernier, d'une nouvelle expérience réelle avec Dieu, authentique. Le temps qui nous reste est encore très court. Et si nous pensons tous, et si nous pesons tous nos mots, si nous tenons notre langue en bride, et si nous nous soumettons à Dieu avec tout ce que nous sommes, en disant, Seigneur, révèle-toi à moi, dans ta puissance et ta gloire, comme le ressuscité, comme le vivant, comme celui qui a dit, le monde ne me voit plus pour un peu de temps encore, mais vous me verrez. Tous les disciples de Jésus ont eu une expérience personnelle avec le Seigneur. Aucun d'entre eux ne pouvait se référer à ce qu'un autre avait vécu. Chacun a eu sa propre rencontre avec le Seigneur Jésus. Et c'est ainsi que nous devons tous avoir notre rencontre avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Grand ou petit, quelle que soit notre tâche. Je crois que c'est Frère Branham qui a répété ce que Frère Duplessis a dit. Dieu n'a pas de petits-enfants, mais seulement des enfants. Chacun doit venir à Dieu et faire l'expérience de Dieu de la même manière. Expérimenter Dieu de la même manière. N'oublions jamais de cette soirée, cette pensée, que la sainte semence de la parole révélée doit être déposée dans une sainte matrice spirituelle qui se referme ensuite pour ne rien, plus rien recevoir, accueillir d'autres, mais rester sainte et pure afin que quelque chose puisse arriver. Pour qu'une fois, enfin, les douleurs de l'enfantement se manifestent. Non, nous l'attendons toujours et il semble que rien ne soit arrivé. Vous savez ce que je veux dire. Que Dieu nous aide. Qu'il nous donne une compréhension spirituelle claire de ce dont il s'agit en ce moment. Et alors, nous serons tous aidés du premier coup. Ensuite, nous nous occuperons de nos propres affaires, chacun de son côté, et nous aurons un respect pour Dieu et les uns pour les autres, une reconnaissance les uns envers les autres. Nous nous comprendrons, nous nous aimerons et nous nous porterons les uns les autres dans la prière. Personne ne se reprendra sur mes intentions. Je veux dire, personne ne se méprendra sur mes intentions. Vous connaissez mon vieux dicton. Celui qui est droit dans son cœur comprend tout correctement. C'est bien de cela qu'il s'agit en ce moment. Et un compositeur de chansons chante, « Âme, es-tu en accord avec Dieu ?» Dis, « Es-tu en accord avec Dieu ?» Quelle est notre position vis-à-vis de Dieu ce soir? Où en sommes-nous dans notre vie spirituelle? Avons-nous pu offrir au Seigneur un sein maternel sanctifié pour accueillir en nous sa sainte parole révélée pour ce temps comme une semence vivante? Dieu nous a-t-il donné la grâce comme à Marie qui a pu dire, je ne connais aucun homme, je ne connais pas d'homme, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Quel contraste avec Ève. Ève n'a pas pu dire qu'elle n'a pas connu d'homme. Et Paul écrit aux Corinthiens, je crois comme le serpent a séduit Ève, que vous ne soyez séduits par votre attitude envers le Christ. Mais il dit, je m'efforce de vous amener à Christ comme une vierge pure, chaste. C'est l'effort de l'Esprit de Dieu dans chaque cœur individuel qui est destiné à contempler la gloire de Dieu. Puisse le Seigneur nous aider et nous bénir de la richesse de sa grâce afin que nous nous examinions et disions, Seigneur, donne-nous une relation d'amour avec toi. Dépose en nous ta sainte semence, veille sur ta précieuse et sainte parole. Et que quelque chose se produise pour que des fils et des filles de Dieu naissent comme la rosée de l'aurore. Qu'il se produise quelque chose de nouveau, comme le Seigneur l'a promis. Voici, je fais toutes choses nouvelles. L'ancien doit disparaître. Les choses anciennes doivent être passées pour peuvent disparaître, doivent disparaître. Les choses anciennes doivent être passées pour faire place au nouveau. Dieu lui-même y veille. Louez ça son Saint-Nom. Amen. Levons-nous pour prier. Père Céleste, ensemble, nous venons devant ta sainte face, ô Dieu. Nous te demandons de nous accorder ta grâce à tous. Toi seul peux le faire. Tu aideras. Nous avons confiance en toi. Ô Dieu, personne ne savait ce qui allait être dit ce soir. Personne n'y a pensé. Tu l'as donné ainsi au Seigneur. Nous l'acceptons avec reconnaissance. Tu veux continuer, que tu puisses continuer à nous parler, ô Dieu. Ô Seigneur, sois notre époux, sois notre tout, sois notre tout, ô Sauveur, que revienne, que le premier amour revienne, cet amour pour toi. Ô Dieu, que ta précieuse et sainte parole soit déposée en nous comme une semence pure. Alors, tu y veilleras, tu t'y engageras, tu te confesseras à cette parole, tu donneras la percée et feras naître une vie nouvelle parmi ton peuple. Nous te louons et nous t'adorons au nom de Jésus. Dans le chapitre 66, du verset 9, dans Ésaïe, il est écrit, Ésaïe 66, verset 9, « Est-ce que je laisserai venir jusqu'à la percée du sein maternel et ensuite je n'achèverai pas l'accouchement ?» dit l'Éternel. « Ou bien moi qui fais naître, empêcherai-je l'accouchement ?» dit ton Dieu. Il est écrit avant cela, au verset 7, Ésaïe 66, au verset 7, « Avant que les douleurs ne l'atteignent, elle est devenue mère. Avant que les douleurs de l'enfantement ne l'atteignent, elle a accouché d'un garçon. » Et toujours à chaque fois. Et puis, il continue, « Ne devrais-je pas laisser venir la percée ? C'est Dieu lui-même qui doit l'offrir. Qu'elle nous concerne, nous, ou qu'elle concerne Israël, c'est le même Dieu, la même parole, la semence de sa parole qui est déposée en nous, qui nous bénisse tous pour que nous mettions en mouvement sa parole, que nous puissions la repasser dans nos cœurs, que nous la gardions, que nous la prenions à cœur et que nous laissions l'Esprit de Dieu agir jusqu'à ce que s'accomplisse ce que Dieu a décidé de faire. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole. Seigneur, ta parole nous a déjà interpellés tant de fois. Et ton intention, Seigneur, est d'arriver avec nous au but. Seigneur, nous ne l'acceptons pas à la légère, mais regarde-nous avec grâce. Mon Seigneur, tu vois où il nous manque, où il me manque et où il nous manque à tous, ô Dieu. Seigneur, nous ne éloignons pas en disant « Je n'ai plus rien, je suis déjà assez juste, ô Seigneur. Je n'ai besoin de rien. » Non, au contraire, nous nous inclinons profondément et nous prenons ces paroles au sérieux, ô Seigneur, et confessons devant toi que les choses ne sont pas encore comme elles devraient l'être dans ma vie et dans notre vie. À tous, ô Dieu, aide-nous maintenant à la fin de cette année, ô Dieu, pour que nous puissions tout dépasser, que nous puissions aller de l'avant et nous examiner au Seigneur. Seigneur, que nous soyons justes en toutes choses, au Seigneur, avec toi, au Seigneur, et avec nous tous. Au Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, nous te remercions. Sois avec notre cher frère, Seigneur, quand il partira demain pour Zurich, ô Dieu, bénis-le, ô Dieu, et bénis ton peuple là-bas aussi. Bénis toute l'Église, Seigneur. Ton corps, ô Seigneur, bénis tes élus partout, ô Dieu, en tout lieu, Seigneur, partout, dans tous les pays, ô Seigneur. Dieu fidèle, c'est notre prière sincère. Tu connais, en effet, nos cœurs, tu sais ce que nous pensons, Seigneur. Sois avec nous et sois avec notre frère, sois avec lui, Seigneur. Bénis-le, sois la parole dans sa bouche, Seigneur. Donne-lui ce qu'il doit dire, Seigneur. Nous savons que si tu ne nous donnes pas ce que nous devons dire, que nous savons que nous sommes pauvres et vides, ô Dieu, nous avons besoin que tu nous parles de plus en plus, que ton nom, Seigneur, soit loué et glorifié pour cela. Alléluia. Amen.